Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur FPP 106.3 FM dans l'émission Histoire Plurielle. Oui, comme tous les quatrièmes jeudis du mois, FPP diffuse et diffusera de 19h à 20h30 une émission consacrée à l'histoire.
Vaste opération de police en effet ce matin à l'aube vers 5h30 autour d'un immeuble du nord de Francfort, non loin de la station de la SIFR-Rundfunk. Surpris au gîte, Andreas Bader et trois membres de son groupe, Fraction Armée Rouge, viennent de se réfugier dans le garage situé au sous-sol. Une violente fusillade oppose alors les terroristes aux policiers qui finalement parviendront à neutraliser les assiégés en faisant usage de gaz. Premier appréhendé, Elger Mainz, n'avait pas eu le temps de s'habiller au moment du bouclage de l'immeuble. Ont également été arrêtés deux autres membres de la bande et Bader lui-même, blessé d'une balle au postérieur lors de la fusillade. Depuis son évasion de Berlin-Ouest il y a 2 ans, Andreas Bader défiait toutes les polices de la République fédérale et le gouvernement du chancelier Brandt était sévèrement critiqué par l'opposition pour son apparente mollesse. En compagnie d'Ulrike Meinhof, une ancienne journaliste toujours activement recherchée, le chef du groupe, qui devait d'ailleurs s'appeler bientôt groupe Bader-Meinhof, comptait à son actif une série impressionnante d'attaques de banques et d'attentats à la bombe. Le dernier en date, le 24 mai, avait coûté la vie à un officier et 2 soldats au quartier général des forces américaines de Heidelberg. Aujourd'hui, si le chef est pris, de nombreux complices courent encore. Certains d'entre eux viennent de faire savoir cet après-midi que 4 bombes exploseraient à Francfort si Bader et ses camarades ne sont pas remis en liberté.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission
Histoire Plurielle, c'est un lapsus. Ce soir, nous commencerons par une question. Faudra-t-il juger plus durement les activistes de la fraction Armée Rouge que les criminels nazis? Car c'est par ces mots qu'un journaliste allemand commentait l'ouverture du procès d'Irina Becker en 2007, libérée en 2007, mais qui reprenait en 2010, suspectée de complicité dans le meurtre du procureur fédéral allemand, Bobach, en 1977. Bien que cette dernière ait déjà purgé de lourdes peines pour ses activités dans les années 70, la justice allemande entreprend de réouvrir le dossier des anciens terroristes des années de plomb, plus de 30 ans après les faits. Nous reparlerons donc ce soir de la fraction Armée Rouge, c'est la deuxième partie de l'émission qui avait commencé la semaine dernière. Nous parlerons bien entendu des conditions de détention du noyau dur, de ce qu'on a appelé le noyau dur de la fraction Armée Rouge, à savoir Ulrike Meinhof, Bader, Gudrun Nelsin, etc. Et puis, dans un premier temps, nous rediffusons une interview qu'a accordé à Radio Canu 2 anciens militants de la RAF, Christa et Gisèle. Donc une émission qui a été diffusée en 2010, en été 2010, et qui revient sur la réouverture des procès en Allemagne contre ces militants. On les écoute tout de suite.
Après des années de lutte et des années de prison, Gisèle et Christa se trouvent dans le studio de Radio Canu. C'est l'été 2010 et Christa vient d'être menacée de repasser 6 mois en prison. Gisèle et Christa sont allemandes et toutes les deux ont fait partie de la fraction Armée Rouge. Depuis 2007, depuis que les 2 derniers prisonniers de la RAF devaient être libérés, les juges, les flics et les médias ont lancé une nouvelle campagne à coups d'articles et de nouveaux procès pour savoir ce qu'ils n'avaient jamais réussi à savoir, pour mettre un nom propre sur les exécutions en 1977 du procureur général Bobach et du patron des patrons Schleyer. Des gens qui avaient déjà passé de longues années en prison se retrouvent menacés par de nouvelles procédures. Certains et certaines, qui étaient en taule en 1977, sont appelés à témoigner, et devant leur détermination à ne rien dire aux flics, menacés de Beugehaft. La Beugehaft est une mesure administrative dans le droit allemand qui permet à un juge de mettre en taule jusqu'à 6 mois une personne qui refuse de témoigner.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede.
bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Dans un texte, écrit collectivement en mai 2010, certains anciens et anciennes de la RAF expliquent leur raison de ne rien dire, de ne jamais parler aux flics, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Voici quelques extraits de ce texte. Depuis maintenant 3 ans, la sécurité de l'État et les médias spéculent sur qui précisément aurait, il y a plus de 30 ans, tué le procureur général Siegfried Buback et l'industriel Hans-Martin Schleyer. Les enquêteurs sont à la recherche d'indices afin de trouver des coupables qui auraient été impliqués dans d'autres actions de la RAF. Pendant plus de 30 ans, personne ne s'est soucié de savoir qui était coupable de quoi. La priorité était de nous faire disparaître derrière les barreaux. En vérité, il s'agit de réduire la discussion sur l'histoire de la lutte armée à une histoire de sang et de violence, un niveau où chaque lien est coupé et traité en termes de criminologie. La RAF s'est dissoute en 1998 sur la base de son évaluation du changement dans la situation politique globale. Apparemment, le fait que ce fût sa propre décision et qu'elle n'ait pas été vaincue par l'État reste encore une source d'irritation constante, d'où la capitulation politique et morale qu'on exige de nous. Pendant que les recherches contre les illégaux, les campagnes de diffamation dans les médias et les procédures en justice contre les anciens prisonniers continuent, nous sommes censés nous prosterner publiquement. Là où, après toutes ces années, ça n'a pas marché par renonciation, nous sommes maintenant supposés nous dénoncer mutuellement, sauf qui peut. Aucun de nous n'a fait de témoignage. Non pas parce qu'il y aurait un accord spécifique entre nous, mais parce que cela va de soi pour chaque être humain doté d'une conscience politique. C'est une question de dignité, d'identité, du camp que nous avons choisi une fois pour toutes. Les actions de la RAF ont été discutées et décidées collectivement lorsque nous étions d'accord. Évidemment, tous ceux et toutes celles qui, à un moment donné, appartenaient au groupe et qui partageaient ces décisions portent aussi la responsabilité de celles-ci. Les appareils de la sécurité de l'État n'ont pas réussi à obtenir une image relativement globale de nos mouvements. Même ceux et celles qui se sont effondrés sous la pression de l'isolation, de la diffamation et du chantage, et qui ont été utilisés comme témoins de la couronne, n'ont pas pu contribuer à compléter l'image. Les bribes et les morceaux que la sécurité de l'État a récoltés pour la contre-insurrection ne lui sont pas d'une grande utilité. Elle n'a pas la moindre idée de l'approche, de l'organisation, des traces, de la dialectique d'une guérilla urbaine dans les métropoles. Et il n'y a aucune raison de courir à son secours. Nous ne faisons pas de témoignages parce que nous ne sommes pas des témoins de l'État, ni à l'époque, ni maintenant. vous inviter aujourd'hui, c'est parce que toi, Christa, tu as été menacée de Boygehaft il y a quelques mois. Alors pour les auditeurs francophones, il faut préciser ce que c'est la Boygehaft. Il n'y a pas d'équivalent de ça dans le droit français, mais il y a un terme en français qui est astreinte par corps. C'est la possibilité pour un juge, donc en Allemagne, de faire mettre en prison jusqu'à 6 mois quelqu'un qui refuse de donner son témoignage à des flics qui veulent l'entendre. Bon, ça fait longtemps que Christa, t'as rien fait de gravement illégal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as cette menace aujourd'hui?
Also vordergründig geht's darum, also so wird argumentiert von Seiten der Justiz oder auch in der Presse, dass es darum geht, also den Angriff auf Buback, also die Tötung von Buback, das aufzuklären, in Anführungsstrichen.
Bon, le prétexte, enfin l'argument du côté de la justice et aussi du côté de la presse, c'est la volonté de faire la lumière, entre guillemets, sur l'exécution de Buback.
Und es laufen in dem Zusammenhang 3 Ermittlungsverfahren gegen ehemalige RAF-Mitglieder und Gefangene aus der RAF. Das eine ist gegen die Verena Becker, wird jetzt ein Prozess Ende September anfangen. Da geht es um Buback, also um die Erschießung von Buback.
Dans le cadre de cette affaire, il y a 3 procédures ouvertes contre d'anciens membres de la RAF, d'anciens prisonniers de la RAF. La première de ces procédures, c'est contre Verena Becker. Son procès va commencer fin septembre. Là, il est question de Buback, de l'exécution de Buback.
Dann gibt es noch ein zweites Ermittlungsverfahren gegen Stefan Wisniewski. Das ist auch, bezieht sich auch auf die Erschießung von Buback. Und ein drittes gegen Rolf Heißler, da geht es um die, wer Schleyer erschossen hat.
Il y a une autre procédure contre Stefan Wisniewski. Là encore, c'est pour Buback. Et puis la troisième procédure, c'est contre Rolf Heißler. Là, c'est pour savoir qui a descendu Schleyer.
Mais il y a déjà des gens qui ont été condamnés pour ces histoires, non?
Eben, also dafür sind schon Leute verurteilt, für Buback, also 3, glaube ich. Und es sind jetzt die jetzt praktisch, gegen die jetzt die Verfahren in Gang gesetzt worden sind, schon vor einer Weile, es läuft schon eine ganze Weile. Das sind Leute, die schon lange im Gefängnis saßen, aber halt dafür jetzt ausgerechnet nicht verurteilt waren.
Oui, justement. Pour ça, il y a des gens qui ont déjà été condamnés. Pour Buback, 3, il me semble. Mais les gens qui se retrouvent à nouveau poursuivis, c'est des gens qui ont fait déjà pas mal de tôles. Mais pas pour ces affaires précisément.
Also, Stefan und Rolf, die haben weit über 20 Jahre im Gefängnis gesessen und sind für andere Sachen verurteilt, also auch zu lebenslang verurteilt gewesen, aber eben nicht dafür, also Stefan nicht für Buback und Rolf nicht für Schleyer.
Stefan et Rolf, ils ont fait plus de 20 ans, ils ont été condamnés pour d'autres choses, condamnés à perpète aussi, mais pas pour ces affaires précisément. Stefan n'a pas été condamné pour Buback et Rolf pas pour Schleyer.
Und das wird jetzt praktisch gegen die gezielt, gegen die inszeniert, die eben dafür noch nicht verurteilt worden sind, obwohl da längst Urteile gesprochen worden sind.
Les gens qui sont visés aujourd'hui, ceux dont les procès sont maintenant mis en scène, ce sont justement ceux qui n'avaient pas été condamnés pour ces affaires-là, même si d'autres ont été condamnés il y a longtemps.
Und es hat sie früher auch sowieso nicht weiter interessiert. Es ging immer darum, uns halt möglichst hoch zu verurteilen.
Et de toute façon, à l'époque, ça ne les intéressait pas de savoir qui était condamné et pourquoi. Ce qui les intéressait, c'était de nous condamner le plus possible.
Und auch in einem Konstrukt, was sie auch in den Medien, was immer so verbreitet wurde als Bild, als es Redelsführer gab und Mitläufer.
Et ce qui les intéressait aussi, c'était de construire une image avec les médias d'un groupe où il y avait d'un côté les têtes pensantes et de l'autre côté les exécutants.
Und gemäß diesem konstruierten Bild von der RAF wurden auch dann so die Urteile hin konstruiert. Jeder hat also da was irgendwie zugewiesen gekriegt und es hat eigentlich nie groß interessiert.
Et c'est en fonction de cette construction, de cette représentation de la RAF que les condamnations étaient planifiées. La justice donnait à chacun une place dans la structure de la RAF et ça n'intéressait personne finalement.
Quelque temps après cette interview, j'ai reçu un message de Gisèle et Christa qu'elles me demandaient de lire. Le voici donc. Après avoir réécouté notre interview, nous nous sommes rendus compte qu'il manque quelques explications sur le contexte politique dans lequel se déroulent les procès actuels. On assiste aujourd'hui à une offensive où il s'agit d'éliminer tout ce qui pourrait être vaguement politique dans l'histoire d'après-guerre de l'Allemagne. Cela concerne la RAF, toute l'histoire de la lutte d'extrême-gauche et aussi la RDA. Il faut le comprendre sous l'angle de la reconstruction de l'Allemagne, pas seulement comme puissance économique, mais aussi comme puissance globale, politique et militaire. L'idée c'est, comme nos voisins européens, nous les Allemands avons besoin d'avoir un rapport détendu avec notre histoire, ou un patriotisme sain. Cela sert aussi à cacher les contradictions sociales et politiques suite à l'assimilation de la RDA. Les drapeaux noir-rouge-or, qui ne disparaissent plus de l'espace public depuis la Coupe du Monde en 2006, font partie de ce phénomène. Tout comme les films et les campagnes qui mettent subtilement en avant la place de victime des Allemands contre l'histoire du nazisme. Et toute cette vague de films, de livres, de campagnes de presse et de procédures juridiques qui cherchent à forger une image de la RAF comme bande de crétins en fait partie aussi. L'Allemagne est très demandée aujourd'hui comme acteur mondial dans la participation aux guerres, au Kosovo ou en Afghanistan. La surveillance et le contrôle de toute la population, au point que même d'anciens ministres de l'Intérieur des années 70 et 80 prennent peur, en font partie. De même que l'élimination d'un modèle économique qui, pendant des décennies, était censé montrer le visage social du capitalisme face à ce qui était le bloc de l'Est. Pour faire passer tout cela, il faut un climat politique qui supprime l'idée même d'une résistance radicale. Parce que dans la classe dominante, il y a le sentiment que ce pouvoir est menacé, toujours. Frankfurt, Saarbrücken, es sind überall dieselben, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Deine Macht gehört niemand.
Bonsoir, bonsoir à tous, c'est toujours Histoire Plurielle sur Fréquence Paris Pluriel. Vous venez d'entendre le témoignage de Christa et Gisèle, deux anciennes activistes de la RAF, qui étaient interrogées par nos confrères de Radio Canu. Je précise que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la plateforme Son en Lutte, qui réunit les meilleurs moments des émissions des radios alternatives. Son en Lutte, vous tapez ça sur yahoo.fr ou Google. Et vous tombez dessus. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc tu étais là le mois dernier, oui. Et tu nous avais parlé de la RAF, sujet dont tu avais fait ton mémoire, que tu as retrouvé entre temps, je précise.
Oui, je l'ai retrouvé enfin.
Enfin voilà. Et alors, eh bien, en fait, on s'était arrêté à l'arrestation de Bader. Alors peut-être que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé auparavant, ou plutôt de ce qu'on a dit dans la dernière émission, c'est-à-dire les débuts de la RAF, le mouvement.
Oui, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas eu les chances de nous écouter la dernière fois, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc, le mouvement dans les années 60 se développe. L'Allemagne est traversée par tout un contexte politique qui fait que les étudiants se révoltent contre la société. Il y a des manifestations.
C'est essentiellement la guerre contre le Vietnam qui mobilise.
Essentiellement la guerre contre le Vietnam.
Et la présence des bases américaines sur le sol allemand.
Donc il y a ce sentiment, voilà, de vouloir lutter contre l'impérialisme américain déjà. Et donc ce mouvement va se radicaliser. dans les années 60.
Voilà. C'est un peu le mai 68 français, hein, en fait, c'est-à-dire.
C'est mai 68 français, sauf qu'il va se radicaliser beaucoup plus violemment qu'en France.
Alors, c'est ce qu'on se disait hors antenne, paradoxalement, c'est que finalement, en mai 68, en France, il y avait eu des ouvriers. C'était la plus grande grève ouvrière depuis Babel et Lurette, hein, mais je crois, aussi bien depuis 36 au moins, quoi. Et en Allemagne, il n'y avait pas du tout eu ça. La faute à la fois à la prospérité économique et puis à la co-gestion à l'allemande mis en place dans les entreprises, c'est-à-dire la collaboration.
En tout cas, en Allemagne, c'était vraiment étudiant, très très étudiant et très berlinois aussi, en tout cas dans les manifestations les plus violentes.
Oui, alors il y a la particularité berlinoise qu'on a pas forcément qu'on a du mal à expliquer, mais qui perdure d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est de là que sont.
Oui, mais Berlin, c'était aussi un îlot au milieu de la RDA à l'époque, il faut resituer dans le contexte de l'époque. Donc c'était la RDA, la RFA, l'Allemagne divisée en deux.
Berlin une présence militaire en deux, très, très forte.
Et une
aussi.
Présence militaire très importante aussi.
Et une ville Berlin. À reconstruire. Alors effectivement, donc, ce qu'on se disait, c'est en fait, il n'y a peut-être pas eu de jonction du mouvement étudiant et ouvrier en France, mais en tout cas, il y a eu une manifestation enfin, d'ampleur et de masse beaucoup plus importante en France, qui n'a pas donné suite immédiatement à donc, du terrorisme, hein, ce qu'on appelle donc, une vague de terrorisme, alors que ça a été par contre le cas en Allemagne, alors que là, il n'y a pratiquement pas eu de grève.
Alors je pense qu'en Allemagne, il y avait aussi une répression beaucoup plus violente qu'en France, et ça a amené peut-être cette radicalisation. Dès 67, on voit qu'il y a une manifestation contre le Shah d'Iran, et c'est là que vraiment tout démarre.
Oui, avec le meurtre de cet étudiant.
Il y a un jeune étudiant qui est tué par un policier.
Le policier est acquitté.
Le scandale, policier sera acquitté.
L'énergie du chat, en plus, avait tapé sur les étudiants, avait provoqué les étudiants.
Oui, tout à fait.
Sans aucune...
Et donc là, le meurtre de Benno Ensorg,
c'est un peu de déclencheur.
Sera un vrai révélateur pour une partie de la jeunesse. Et là, ils vont, la violence va vraiment prendre le.
Alors c'est quand même la violence d'une minorité, parce qu'on a vu le SDS, le mouvement étudiant dont est issu toute la contestation et dont sont issus la majorité, enfin une grande partie des gens de la RAF. Le SDF lui se dissout en 70. Alors il y a un fond dont on n'a peut-être pas parlé la dernière fois, qui sont les lois de sécurité qui doivent être votées à l'époque au Parlement allemand. Et alors c'est un peu compliqué, mais il s'agit en résumé les bases américaines, enfin françaises et anglaise, les autorités d'occupation bénéficient de toute possibilité pour protéger leur base, toute latitude. Et le gouvernement allemand entreprend de corriger ça en imposant ses propres lois d'urgence en cas d'attaque des bases américaines, anglaises ou françaises. Et donc il fait voter des lois effectivement d'exception, ce qui en fait cristallise la contestation étudiante. Le thème est très sensible, puisque finalement c'est des bases américaines qui vont faire les frais des premiers attentats.
Les étudiants vont se sentir tout de suite exclus de la vie politique. Il faut rappeler que pendant cette période, les deux grands partis politiques allemands, le CDU et le SPD, vont s'allier. Il y aura une grande coalition. Donc ça va verrouiller vraiment la vie politique. Et tous ces jeunes de gauche ou d'extrême gauche vont se sentir trahis.
Le PC n'existe pratiquement pas. Il a été interdit pendant de très longues années. Il est très minoritaire. Et puis il y a la RDA qui est à côté. Enfin, le travail de la social-démocratie est quand même d'exclure du jeu politique, de toute référence au marxisme, et d'exclure du jeu politique le Parti communiste. Donc, ce qui fait que toutes les conditions sont réunies pour avoir la naissance d'un mouvement extra-parlementaire.
Tout à fait, c'est un mouvement extra-parlementaire. Mais c'est vraiment la guerre du Vietnam qui va coaliser tous ces étudiants, puis aussi l'anti-impérialisme et l'anti-capitalisme. D'ailleurs, les premiers attentats, si on peut dire, ce sera quand même l'incendie de deux grands magasins à Francfort, hein, par Bader, Henslin et deux autres acolytes. On va dire que c'est vraiment le début de leur aventure, si on peut nommer ça aventure.
Oui, je te laisse la responsabilité de tes propos. Oui, et puis il y a le passage à la clandestinité qui n'est pas voulu
au départ. Oui, beaucoup plus tard, pour l'instant on n'en est pas là.
Pardon.
Donc oui, après cet incendie, effectivement, ils vont se faire arrêter très rapidement. Ils n'étaient sûrement pas très préparés. Ils se font arrêter, ils vont être condamnés à une peine de prison. Au milieu de cette peine de prison, ils vont être relâchés. Dans l'attente de leur procès en appel. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'ils vont passer, pour certaines, dans la clandestinité.
Il faut bien préciser que le passage à la clandestinité est vraiment c'est le moment où se crée la RAF, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas voulu au départ, c'est l'arrestation d'Andreas Bader qui provoque cette réaction. Mais là, c'est pas tout à fait conforme à ce qu'ils envisageaient au départ, ou à leur théorie, c'est-à-dire d'être dans le milieu social, de faire des actions dans le milieu social.
Oui, c'est vrai qu'au début, ils voulaient mener une action sociale, dans les milieux de gauche, dans la légalité, tout en ayant à côté des activités illégales. Mais dès le début, ce ne sera pas possible, puisque Bader va se faire arrêter, et il y aura une action pour le faire libérer, donc une évasion. Et à partir de ce moment-là, le retour à la légalité sera impossible.
Voilà, on rentre dans la clandestinité et on va jusqu'au bout de la logique.
D'ailleurs, ce sera le grand symbole de la RAF, c'est que tous les membres de la RAF seront clandestins, vont rentrer dans la clandestinité.
Absolument, pour être membre de la RAF, il fallait être clandestin, contrairement à d'autres groupes allemands.
C'est une preuve de rupture avec le mode de vie bourgeois, mais il faut se mettre...
Un espace de liberté aussi.
Tout à fait, mais il faut se mettre en tête de ce que ça pouvait être de passer en clandestinité, c'est-à-dire il fallait abandonner sa famille, ses amis, tous ses repères. Après, il fallait trouver de l'argent pour survivre, il fallait se loger dans la clandestinité, faire des faux papiers.
Ça rendait un groupe relativement fragile.
Fragile, mais solidaire, sûrement.
Alors, très vite, il y a... Alors, bon, on a parlé de leur petite excursion en Jordanie, dans un camp palestinien.
Un petit stage de remise en forme, afin d'être apte
à
la
lutte. Et puis, ensuite, des attaques de banque pour se financer, pour pouvoir se payer des attaques.
Oui, ils vont se faire connaître comme ça. Les attaques de banque, l'expropriation de...
Oui, ça restera beaucoup. Les médias parleront beaucoup de désespérado, de choses comme ça, de crimes de droit commun, sachant pertinemment que, comment marche une guérilla. Et puis on passe là aux vraies attaques politiques à l'année 72
5 attentats contre les symboles
de l'autorité et de l'impérialisme.
Donc la justice, les bases américaines, la police et aussi la presse du groupe Springer qui était vraiment véhémente contre les étudiants et contre le mouvement étudiant à cette époque et qui a été aussi victime d'un attentat.
Voilà, on a dit qu'il était probable qu'on ait eu affaire à des groupes autonomes qui choisissaient leur cible par elles-mêmes, mais même s'il y a eu une coordination dans le temps pour faire ces actions.
Alors, il y a sûrement eu une coordination dans le temps. Je pense qu'ils avaient choisi le mois de mai pour faire leurs actions. Après, effectivement, c'était différents groupes qui étaient autonomes, qui préparaient chacun de leur côté leurs actions et qui ont choisi, on va pas dire au hasard, mais les symboles de... contre lesquels il fallait lutter. Et c'est vrai qu'il y a une grande disparité géographique dans leurs actions. C'était à Munich, à Augsbourg, dans différentes villes d'Allemagne, et très proche dans le temps.
Voilà, donc ce qui a fait un peu paniquer les autorités allemandes. Donc ils sont... très très vite, il y a une liste de noms qui sortent. Donc ils sont tout à fait connus. En fait, il faut dire aussi qu'ils sont un peu dans la clandestinité.
Quelques jours après le dernier attentat, le groupe Springer, justement... met dans la presse le nom de 19 terroristes recherchés avec leurs photos, donc ils ont déjà été identifiés, oui, effectivement, très rapidement. D'ailleurs, ils seront arrêtés très très rapidement.
Voilà, alors après, ils étaient tous dans la clandestinité, certains étaient déjà recherchés, donc ils sont arrêtés très très rapidement. Alors on va peut-être se repasser l'extrait du début, puisque juste pour te faire commenter comment on voyait la bande à Bader déjà à l'époque.
Vaste opération de police en effet ce matin à l'aube vers 5h30 autour d'un immeuble du nord de Francfort, non loin de la station de la SIFER-Rundfunk. Surpris au gîte, Andreas Bader et trois membres de son groupe, Fraction Armée Rouge, viennent de se réfugier dans le garage situé au sous-sol. Une violente fusillade oppose alors les terroristes policiers qui finalement parviendront à neutraliser les assiégés en faisant usage de gaz. Premier appréhendé, Elger Mainz, n'avait pas eu le temps de s'habiller au moment du bouclage de l'immeuble. Ont également été arrêtés deux autres membres de la bande et Bader lui-même, blessé d'une balle au postérieur lors de la fusillade. Depuis son évasion de Berlin-Ouest il y a 2 ans, Andreas Bader défiait toutes les polices de la République fédérale et le gouvernement du chancelier Brandt était sévèrement critiqué par l'opposition pour son apparente mollesse. En compagnie d'Ulrike Meinhof, une ancienne journaliste toujours activement recherchée, le chef du groupe, qui devait d'ailleurs s'appeler bientôt groupe Bader-Meinhof, comptait à son actif une série impressionnante d'attaques de banque et d'attentats à la bombe.
Le dernier en date, le 24 mai, avait coûté la vie à un officier et deux soldats au quartier général des forces américaines de Heidelberg. Aujourd'hui, si le chef est pris, de nombreux complices courent encore. Certains d'entre eux viennent de faire savoir cet après-midi que quatre bombes exploseraient à Francfort si Bader et ses camarades ne sont pas remis en liberté.
Bonsoir, bonsoir. C'est toujours Fréquence Paris Pluriel, Histoire Plurielle. Hein. Et donc on parle ce soir de la fraction Armée Rouge et vous venez d'entendre un extrait de l'arrestation d'Andreas Bader et de Jan Karn Rasp.
Holgermein,
merci. Donc vous venez d'entendre cet extrait, ça date de l'année 72, de la fameuse année, c'est juillet 72. Et alors, moi, dans cet extrait, il y a d'abord quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque, on parle encore de fraction armée rouge, on ne parle pas de bande à Bader. Alors déjà, sur la dénomination,
On va dire que la bande à Bader, c'était la presse bourgeoise, en tout cas certaines presses qui parlaient de bande à Bader pour... démythifier le mythe militaire, on va dire. La fraction Armée Rouge, c'est puissant. Le bande à Bader, c'est la bande à Bono. C'est une bande de desperados, de bandits de grand chemin.
En même temps, il y a une référence aux anarchistes avec la bande à Bono. Mais le chef, le leader, donc Bader, le délinquant, le braqueur de banque, c'est ça ?
Oui, on limite la.
Alors aussi dans l'extrait, alors dans l'extrait, on entend aussi qu'on trouve donc Holgermein au pied du lit, que Bader a pris une balle dans le postérieur. Et alors, on peut pas se empêcher de se dire pas si ces événements sont sûrement vérifiés, mais que dans le traitement qui est réservé, il y a quand même une volonté de montrer les terroristes dans leur nudité. Disons, ces hommes dangereux, voilà ce qu'ils sont au saut du lit, quoi.
Oui, de les ridiculiser carrément, on peut dire.
Voilà, donc merci. Et enfin, troisième chose, c'est qu'on s'attend à beaucoup d'attentats qui vont suivre, parce que les terroristes sont partout et ils sont dangereux. Et ça, historiquement, qu'est-ce qu'il en est, Hervé ?
Alors, qu'est-ce qu'il en est ? En 72, les terroristes se font arrêter en un mois, à peu près, hein, après les attentats, mois de mai, 1er juin. Bader se fait arrêter donc avec Jan Karl Rasp et Holgermein. Quelques jours plus tard, Gudrun Neslin s'amuse, se fait arrêter aussi. Ulrike Meinhof se fait arrêter 15 jours plus tard, sur dénonciation de la personne qui l'hébergeait. Donc c'est allé très très vite. Mais il faut dire que les moyens mis en place par la République fédérale allemande à l'époque ont été énormes. Déjà, ils ont encouragé évidemment la délation avec des récompenses énormes.
Le recours aux forces armées,
il y avait quand même 130 000 hommes qui ont été mis sur le terrain afin de rechercher tous les membres de la bande à Bader et de la fraction Armée Rouge.
Parce qu'il y avait, décidément, ce terme nous colle à la peau. Donc on peut considérer qu'il n'y a pratiquement plus d'attentats après
le gouvernement allemand pense que la RAF est décapitée. Donc la RAF, la fraction Armée Rouge, est décapitée. Il n'en est rien, mais il faudra quand même un temps de réadaptation, de réorganisation. Et c'est vrai qu'il ne va pas se passer grand-chose pendant un an, deux ans. Donc, on n'entendra plus beaucoup parler du groupe, en tout cas pas dans leurs actions.
D'accord. Alors, la première chose que fait le gouvernement allemand, c'est de mettre les prisonniers à l'isolement. La première à faire les frais de l'affaire, c'est Ulrike Meinhof, qui file directement dans l'aile psychiatrique de la prison, chez le bâtiment psychiatrique pour femmes de la prison de Cologne, et qui dans une cellule où elle est une cellule
complètement isolée
acoustiquement, peinte en blanc.
Oui, on parle de torture blanche. C'est de déprivation sensorielle. En fait, les militants de la RAF subissent un traitement spécial, même si le gouvernement dira toujours le contraire. Mais ils ont été mis à l'isolement dans des cellules blanches, comme vous dites, toutes peintes en blanche, sans lumière extérieure, ou toute petite, peut-être une rayure de lumière, mais qui était cachée par des barreaux. Ensuite, il y avait des néons, en tout cas dans la cellule d'Ulrike Meinhof, des néons qui étaient allumés jour et nuit. Donc la personne ne pouvait plus dormir, était complètement perdue.
Voilà. Elle est restée 8 mois dans cette cellule et un psychiatre de la prison a fini par admettre que c'était un fardeau psychique qu'elle ne pourrait pas supporter. Et alors, on s'est quand même interrogé sur ses méthodes, puisque entre-temps, hein, de nombreux travaux universitaires ont quand même établi que ça portait un nom, ça s'appelait la torture par isolement. Donc torture, d'abord, parce que ça durait 8 mois. Oui, Hervé, la torture par isolement, et qu'on l'avait expérimenté d'abord, que c'est la CIA qui l'avait expérimenté sur le territoire américain. C'était le fruit des expériences des psychiatres américains. Et puis qu'en Allemagne, on avait fait juste avant l'expérience sur des étudiants volontaires, puis sur les soldats de la Bundeswehr. Alors voilà, c'est ce qui fait...
Ah oui, il y a eu des études qui... Vous m'enlevez les mots de la bouche, Ludovic. Qui ont été faites à ce sujet, effectivement. Donc, des études sur l'isolement aux États-Unis. Puis après, c'est un scientifique tchécoslovaque qui est venu en Allemagne.
Oui, alors justement, en Tchécoslovaquie, il y avait un lien avec le bloc de l'Est, ou c'était simplement voilà. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que ces études, ont porté aussi sur des soldats de la Bundeswehr, qu'on a
trouvé des volontaires. Donc, voilà, des étudiants très bien payés, mais beaucoup ont abandonné en cours de route parce que c'était vraiment trop trop violent. Et après, ils sont donc passés avec des soldats de la Bundeswehr, effectivement.
Ouais. Alors moi, ce qui m'a frappé dans ce traitement, c'est que tout de suite, en fait, on traite donc Ulrike Meinhof en l'occurrence, si vous voulez, de déviante en fait. Hein. C'est-à-dire que on va psychiatriser, médicaliser, dire qu'on a affaire à une folle dingue. Et je vous propose d'écouter un extrait sur ce qu'en pense justement les témoignages, enfin des militantes de la RAF, de ce que pense, donc, qu'on a écouté tout à l'heure, pense de ce traitement.
Bei Ulrike Meinhof haben sie versucht, sie als verrückt zu erklären. Er hat Dinge eingeleitet, sie sollte eine Gehirnoperation bekommen.
Par exemple, Ulrike Meinhof. Ils ont cherché à la faire passer pour folle. C'est Buback qui a lancé l'idée qu'elle avait besoin d'une opération du cerveau.
Also Ulrike Meinhof war ja eine sehr bekannte Person in der Bundesrepublik. Sie war eine bekannte Journalistin, linksradikale Journalistin und ist dann zur RAF gegangen.
Bon, Ulrike Meinhof était quelqu'un de très connu en RFA. C'était une journaliste connue, une journaliste extrême gauche qui a intégré la RAF.
Und das war aber auch so ein Stachel, weil viele, auch Liberale, alle kannten sie. Und dass so eine Person zur RAF geht, also das mussten sie irgendwie wegbekommen.
Mais c'était une épine dans leur pied, parce que même la Liberale, en gros la gauche institutionnelle, la connaissait aussi. Et qu'une personne comme elle puisse rejoindre la RAF, ça, c'était quelque chose dont il fallait se débarrasser.
Bonsoir, bonsoir. Alors, vous venez d'entendre le témoignage de Christa et Gisèle, qui est intervenu sur Radio Canu en 2010, sur le traitement réservé à Ulrike Meinhof et la torture par isolement. Hervé, en fait, cette torture, d'abord, il n'y a pas que Ulrike Meinhof qui sera concernée, donc Gudrun Nelson le sera aussi, et Astrid Proll, il restera 5 mois, à tel point qu'elle sera obligée d'être transférée dans une maison de repos.
En fait, les docteurs vont l'examiner et ils vont dire qu'elle n'est plus apte à être emprisonnée, tellement les conditions étaient difficiles. Donc, elle va être transférée dans une maison de repos plus calme, dont elle va s'évader. Et là, elle va partir en Angleterre où elle va refaire sa vie. En tout cas, elle va essayer de refaire sa vie, puisqu'en 1978, elle sera de nouveau arrêtée, extradée en Allemagne, et elle passera en procès en 1979 en Allemagne.
Voilà, quand on a fait partie de la RAF, il faut toujours payer une fois de plus ou deux fois. Alors, tout ça provoque quand même des remous, c'est-à-dire une résistance de la part des prisonniers et des grèves de la faim.
Oui, tout à fait. En fait, il faut bien voir que les effets de la torture par isolement sont assez terribles. En effet, on peut voir que quand on reste dans une cellule isolée, tout sans bruit, il n'y avait aucun son humain. Pas de contact avec d'autres prisonniers, d'autres personnes.
Le but
était
de faire perdre la notion du jour et de la nuit aussi.
Tout à fait, mais en fait, après, dans le livre de la torture dans les prisons de la RFA...
De qui? Parce que c'est quelqu'un
de Klaus Croissant, donc, qui était un avocat des membres de la RAF. Il nous explique les conséquences de cette torture et il dit qu'il y avait une difficulté à discerner la réalité, des hallucinations visuelles et auditives. Il y avait une tendance à mal interpréter les tendances des stimuli du monde extérieur, mais aussi de son propre corps. Une réduction des capacités de réflexion. Donc les gens étaient vraiment diminués. Une apathie, une dépression, des crises de panique aussi. Donc évidemment, les gens, les prisonniers, n'étaient plus eux-mêmes. Et on les a complètement détruits avant les procès qui leur étaient intentés.
Voilà, alors on les a détruits et en réaction ont commencé les premières grèves de la faim.
Oui, et que faire pour contre ces abominations? Il fallait bien se défendre. Quelle était la seule solution pour les membres de la RAF? Bah, c'était la grève de la faim.
Et c'était de médiatiser aussi un peu leur grève. Alors en fait, ils font grève explicitement pour ne plus subir l'isolement. Hein. Donc ouais. La première grève commence en janvier 73, le 17 janvier, elle se termine le 15 février, ça fait à peu près un mois. Voilà, et les autorités ne cèdent pas. Donc elle a duré 30
ans. Alors les autorités ne cèdent pas. Oui et non. En fait, cette première grève de la faim était destinée à essayer d'alléger les conditions d'isolement d'Ulrike Meinhof, qui elle est vraiment, vraiment, vraiment subie des conditions terribles. Je pense que comme c'était l'intellectuelle du groupe, celle qui devait mener, je pense.
Celle qui était respectable, on va dire aussi.
C'était on va dire que c'était elle, oui, la femme respectée, celle qui.
Et on
qui
envisage,
avait encore un petit peu de.
Et on envisage de pratiquer des examens psychiatriques sur elle.
Oui, mais ils ne sont pas allés au bout de leur volonté, il y a eu
trop de mobilisation.
Trop de mobilisation. Et donc, cette première grève de la faim a quand même eu comme succès, on va dire, l'isolement moindre d'Ulrike Meinhof, puisqu'après elle était transférée dans une cellule d'où elle pouvait entendre des bruits humains.
Super. Donc ça, c'était ça, c'est sympa, ça servait à quelque chose. La deuxième grève de la faim commence le 8 mai 1973, donc c'est pas longtemps après, c'est deux mois après. Et là, c'est 80 prisonniers qui entament la grève de la faim, parce qu'il faut préciser qu'il n'y a pas que les prisonniers de la RAF, en fait. Hein. Il y a aussi ceux, on en parlera tout à l'heure,
oui, du SPK. Il y a plusieurs groupes. Hein.
Voilà, il y a plusieurs groupes, et notamment ceux du SPK, c'est-à-dire les patients contre la psychiatrie. Hein.
Oui, ce sont le collectif des patients socialistes. Bon, c'était les docteurs qui ont mis
les antipsychiatriques, en fait, hein, on va dire.
Oui, c'est ça. Oui, des docteurs qui ont mis au point cette structure. Ouais. Il y avait aussi le mouvement du 2 juin
qui a été réprimé puisqu'ils ont été arrêtés.
Tous les mouvements de cette sorte ont été réprimés.
D'accord. Donc 80 personnes et c'est le début de la nutrition forcée. Alors voilà, on leur introduit une sonde. On les attache et on leur introduit du son. Donc il y a un côté très médical dans tout ça.
Ils ont même été anesthésiés pour certains, pour pouvoir les nourrir pour la nourriture forcée. Oui.
Et alors il y a quand même des variations subtiles. Alors, par exemple, pour obliger à manger certains, on leur supprime l'eau. Donc c'est le cas d'Andreas Bader. Donc au bout du troisième jour, il tombe dans le coma. Dans le cas d'Holger Mais, qui est le cas le plus qui est le plus dramatique, on estime qu'il y a une sous-alimentation.
Ah, carrément, carrément.
Mais là, pas une sous-alimentation qui liait la, enfin, bien sûr, liée à la grève, mais dans le traitement qui leur a été, plus de nutrition forcée, il y a une sous-alimentation.
Bah pour survivre, il faut un nombre de calories journalier minimum, et celui-ci n'a pas été atteint dans le cas d'Holger Mainz. Bon, là, c'était dans la troisième grève de la faim. En fait, qu'est-ce qu'ils demandaient? Tout simplement les mêmes droits, le même traitement que les autres prisonniers. Et
les autorités ne cèdent toujours pas après la deuxième grève de la faim, au point que la troisième, donc qui commence le 13 septembre 1974, alors là, c'est bon.
Alors, elle dure jusqu'en février 75. Alors, pour la RAF, c'est vraiment la seule possibilité de résistance collective.
Alors, oui, c'est vrai l'isolement d'Ulrike Meinhof a pris fin quand même, en le 13 septembre 74. Mais. En 75, oui, c'est la seule possibilité de faire connaître leur combat et surtout de s'adresser par l'intermédiaire de leurs avocats, hein, de s'adresser à l'extérieur. Donc ça dure 145 jours. Et là, bon, bah, ça va se finir mal.
Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'ils ont considéré qu'ils étaient considérés comme des prisonniers politiques ? Est-ce qu'il y a eu une tentative de leur part pour justement être considérés comme des prisonniers politiques ou des, simplement droits communs
Ah oui, pour eux, ouais. Ils se considéraient comme des prisonniers politiques.
Mais pas le jugement. Le jugement n'a jamais dit...
Bien sûr que non. D'accord, bien sûr. Non, bien sûr que non. Par contre, c'est vrai que, je reviens à ce que Ludovic disait, effectivement, la grève de la faim a été assez terrible dans cette...
Oui, la grève de la faim a été terrible, dans ces circonstances.
Dans la troisième, oui, c'était la troisième grève de la faim. Effectivement, le Germain sera le symbole de cette lutte.
Et alors, donc il y a une sous-alimentation forcée. Donc, Holger Meiss meurt. Hein, c'est le premier moment, si vous voulez, où on commence un peu à prendre conscience du traitement qui est infligé aux gens de la RAF. Alors, on va s'écouter un extrait qui est sur justement les grèves de la faim.
Le gouvernement allemand veut la mort des prisonniers de la bande à Bader, vient d'expliquer leur avocat réfugié en France. Depuis plusieurs jours, pour certains depuis plusieurs semaines, 40 détenus appartenant à cette fameuse fraction armée rouge ont entamé une grève de la faim. Ils veulent être groupés dans une même prison. Pour l'instant, le gouvernement refuse. L'épreuve de force risque de tourner au drame, car il est bien évident que si l'un des extrémistes mourait, on pourrait craindre, en Allemagne fédérale, une vague d'attentats en représailles.
Derrière les murs de béton et les portes d'acier des prisons allemandes se trouvent actuellement à Hambourg, Munich, Cologne ou Stuttgart une cinquantaine d'anarchistes condamnés à de lourdes peines. Ces détenus sont jugés comme étant les plus dangereux d'Allemagne. Ils bénéficient certes de conforts comparables à tous les autres prisonniers allemands, ni plus ni moins. Leur surveillance est cependant nettement plus sévère. Longtemps, ils ne purent communiquer entre eux. Pour évoquer leur situation, Jean-Paul Sartre et leurs avocats ont parlé de torture par l'isolement. Il y a 6 mois, les condamnés du groupe Bader-Meinhof ont cependant été rassemblés en groupe de 10 à 15 détenus. Depuis, cet allègement des conditions de détention a été supprimé pour indiscipline. Andreas Bader, Gudrun Henslin et leurs disciples ont répondu à cette mesure par une grève de la faim. C'est un défi absolu à l'adresse de l'État de Bonn. La mort des prisonniers en ferait des martyrs et soulèverait une vague de solidarité.
Voilà, c'était toujours le journal télévisé. Cette fois, c'était France 2. Voilà, donc il y a toujours la peur de l'attentat, et vous l'avez entendu. Et puis aussi, il faut dire une chose, c'est que les journalistes ont mis quand même beaucoup de temps à être avertis des conditions d'isolement. C'est-à-dire qu'ils se contentaient des informations du gouvernement allemand, et il a fallu quand même tout le travail des avocats. Et certaines interviews aussi qui ont été accordées aux journaux, à Spiegel notamment, pour que les prisonniers de la RAF puissent exprimer vraiment le sort qui leur était réservé. Effectivement, quand Holger Meiss meurt, c'est quand même c'était relativement prévisible.
C'était prévisible. Ce fut un symbole d'ailleurs pour les membres de la RAF. Holger Meiss, quand il est mort, il faisait 42 kilos pour 1m85.
Oula.
Et sa photo a été publiée.
C'était un gros, gros choc parce que c'était une photo horrible. Et donc là, la communauté internationale s'est un peu affolée. Affolée est un grand mot. Mais Amnesty International a dénoncé les conditions de détention des membres de la RAF. Jean-Paul Sartre a visité aussi d'ailleurs la prison de Stammheim. Il est allé voir Andreas Bader. D'ailleurs, il a fait une conférence de presse par la suite devant 150 journalistes dans laquelle il dénonçait les conditions de détention. Et il disait que ces conditions de détention pouvaient avoir 3 conséquences. C'était rendre les prisonniers incapables de se défendre au tribunal, les rendre fous et les faire mourir. Donc c'était clairement,
ce qui s'est vérifié.
Clairement une volonté du gouvernement de faire taire les terroristes.
De détruire, hein, et de les voir arriver pas indemnes au procès. En fait.
Par contre, en Allemagne, c'est vrai qu'ils ont voulu réduire la portée d'intervention de Sartre. Et en fait, ils ont expliqué cela par la baisse d'influence du philosophe depuis qu'il cautionnait les causes de gauche.
D'accord. Oui, Sartre a toujours cautionné les causes de gauche, alors on se demande un peu, sauf dans l'entre-deux-guerres. Voilà.
Alors,
on reviendra sur le différent franco-allemand à propos de ça. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'à l'extérieur, la solidarité s'organise. C'est-à-dire que les avocats, comme je l'ai dit, font des conférences de presse. Alors, c'est quand même un milieu qui est soutenu par des avocats, par un nombre relativement important d'avocats qui sont sensibles à leur cause.
Et croissant en plus.
Voilà. Et qui faisaient partie d'ailleurs du mouvement étudiant. Donc il y a effectivement Klaus Croissant. Il y a aussi notre ami, lui, qui a été condamné à 14 ans de prison.
Horstmaller, voilà, qui pour des raisons, on en reviendra, se dissociera de la grève de 1974.
Horstmaller a été arrêté bien avant Bader, en 71, et son procès en 74, effectivement, il est condamné à 14 ans de prison. En 74, il va se dissocier de la RAF, et en expliquant qu'il n'était pas d'accord avec... pour différentes raisons, hein, mais qui n'était pas d'accord non plus avec le principe de la grève de la faim. D'ailleurs, il sera un peu lâché par beaucoup de monde à ce moment-là.
Oui, bah oui, on n'enfonce pas, voilà, on tire pas sur l'ambulance. Et surtout à l'extérieur, se créent des comités de soutien qui, au départ, avaient été créés pour défendre les personnes arrêtées et inculpées pour participation à des délits commis dans le contexte du mouvement étudiant. Il y en a eu des personnes arrêtées pour les délits commis dans le cadre du mouvement étudiant. Il y en a eu beaucoup, hein. Et donc, ce qu'on a appelé les fameux secours rouges et les secours noirs, donc qui expriment le secours rouge pour la tendance marxiste, secours noir pour la tendance anarchiste,
libertaire.
Bon, et voilà, libertaire. Et c'est au départ, donc c'est à Berlin, hein, que se créent ces secours, mais ensuite dans plusieurs villes allemandes, progressivement, donc c'est, et à l'approche du procès et à la mort de Goldmann, dans plusieurs villes européennes, Paris, Milan, Bruxelles, Amsterdam, Athènes. Donc là, on peut quand même estimer que finalement, les conditions de détention de la RAF attirent pratiquement plus de sympathie que leurs actions. Et notamment touche hein, quand même tous les militants de gauche et d'extrême gauche.
C'est ce qu'on peut penser, oui, mais fait, c'est vrai que la mort d'Olga Mas va vraiment toucher les gens et ça va relancer les actions. Par contre, ça va relancer les actions à l'extérieur de la prison. Donc, c'est à partir de la mort d'Olga Mas que de nouveaux attentats vont être effectués. Parallèlement, effectivement, les secours rouges, les secours noirs, il y aura aussi le comité contre la torture dans les prisons qui vont aider tous les prisonniers de la RAF et qui vont essayer d'alerter l'opinion publique avec l'aide des avocats. Le gouvernement allemand fera tout pour minimiser, évidemment, leurs actions. Va mettre des bâtons dans les roues de tous les avocats. Klaus Croissant, dont on a parlé, va être poursuivi par le gouvernement allemand.
Et se réfugiera en France.
Il va se réfugier en France en 1977. L'Allemagne va demander son extradition, va l'obtenir, et Klaus Croissant va être condamné à 2 ans et demi de prison.
Oui, juste 2 ans et demi. Alors, c'est dans les secours rouges et les secours noirs que vont se recruter la deuxième génération. Alors, justement... on peut estimer que à l'arrestation de Bader, bon, la RAF est quand même sérieusement touchée, mais ce n'est pas la RAF qui va réagir à la mort de Goldmann, ce sont c'est le mouvement du 2 juin. Et là, c'est l'assassinat de von Drucksmann.
Oui, en fait, le 10 novembre, le président du tribunal de grande instance de Berlin, Günther von Drachmann, est assassiné à son domicile. Donc, ça sera revendiqué par le mouvement du 2 juin. Donc, c'est un mouvement parallèle hein, qui s'était créé en 1972. Il y a eu d'autres actions. Hein. Le 21 novembre 1974, une bombe explose aussi devant le domicile de Gerd Ziegler. Donc, c'était le juge du tribunal de Hambourg.
Donc, on voit qu'en fait, par-delà la RAF, il n'y a pas que la RAF, il y a quand même un mouvement fort de sympathisants. Alors, dans les mouvements, on a mentionné hein, le collectif des patients socialistes, oui. Donc qui est très vite arrêté, puis le mouvement du 2 juin, qui est postérieur à la RAF.
Oui, les deux mouvements. Alors, vous avez le mouvement du 2 juin qui se crée en 1972. Vous avez aussi les cellules révolutionnaires, les révolutionnaires CLN. Qui sont créés en 1973.
Alors la particularité de ces deux groupes, c'est de ne pas être clandestins.
Alors en tout cas au départ, ils ne sont pas clandestins tant que la police ne les a pas repérés et tant qu'ils peuvent mener de front leur activité professionnelle et leur activité
Alors, je donne juste un chiffre hein, que rapporte donc un historien allemand. C'est selon le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur à l'époque recense 392 organisations d'extrême gauche. Activistes ou non, donc y compris les K-Gruppen, ce qu'il appelle les K-Gruppen, c'est les communistes, Gruppen, et donc c'est les activistes, et il dit qu'au total, ça fait à peu près 60 000 personnes. 60 000 personnes, c'était la marche, une marche étudiante, pour la mort de l'étudiant qui avait été assassiné au moment des chats d'Iran. Bon, c'est peut-être surestimé, mais enfin, ils suivent ça de près. Et tous ces groupes fonctionnent sur l'idée du mouvement de guérilla urbaine. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, le mouvement du 2 juin, et au départ, les RZ aussi, estiment que
l'action terroriste doit se pratiquer dans les villes, sur le territoire, et pas à Pétaouchnak, c'est-à-dire pas en pleine campagne, quoi. Non, par exemple pas en Palestine. On va dire, ne doit pas forcément la cause palestinienne est une cause en soi, mais la lutte est amenée ici.
Mais en fait, dans les villes, c'est là où il y a les centres de commandement, tous les centres économiques, centres politiques, judiciaires. Donc c'est là qu'il faut mener la lutte. Et il s'inspire beaucoup de Carlos Marighella, qui a écrit le manuel de la guérilla urbaine, qui est vraiment, on va dire, qui a été la bible de tous les terroristes de l'époque.
Oui. Alors, donc pour donner une idée, hein, par exemple en 73, à Francfort, les RZ au début, donc ils sont eux dans cette logique, hein, d'être dans le milieu ambiant, font des sabotages, par exemple, des fausses alertes à la bombe. C'est du petit terrorisme, on serait envie de dire, et du terrorisme symbolique. Et ils pratiquent la lutte armée en concert avec leur lutte politique locale. Et puis ils visent alors des firmes américaines, donc ITT, l'énergie nucléaire, l'armée américaine. Voilà.
C'est vrai que les cellules révolutionnaires ne seront pas vraiment prises au sérieux au départ.
Ouais.
Donc voilà. Ils seront vraiment pris au sérieux qu'à partir de 1976-1977. Quand leurs attentats viseront des installations de l'armée américaine, donc contre les cibles liées à l'énergie nucléaire. Là, ils vont vraiment être
très actifs,
mais à partir de ce moment, ils vont être vraiment pourchassés par les services de police allemands. Et là, les militants vont être obligés de passer à la clandestinité.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils vont dealer plus ou moins avec Carlos, et qu'on retrouvera, et c'est important de le dire, parce qu'il y a une confusion qui est souvent faite quand on parle de militants de la RAF qui ont organisé des actions, qui ont participé au terrorisme international. En fait, c'est des gens des RZ, pratiquement exclusivement.
Ce sont plutôt les gens des cellules révolutionnaires, effectivement, qui ont participé.
À titre individuel, pour la logistique, c'est des échanges de services aussi.
Si on peut parler d'international terroriste, effectivement, ce sont les membres des cellules révolutionnaires qui ont participé à ça, puisqu'ils ont participé à la prise d'otage des ministres de l'OPEP à Vienne en décembre 1975, hein, qui avait été menée par Carlos, avec Hans-Joachim Klein et Johannes Weinrich, qui était le bras droit, en fait, de Carlos. Après, ils ont aussi participé au détournement d'un Airbus français sur NTB en juin 1976. Mais les deux membres des cellules révolutionnaires vont être tués lors de cette opération. En fait, ils étaient très proches des membres du FPLP, des luttes palestiniennes.
Voilà, donc finalement, ceux qui étaient sur un contexte local, à partir du moment où ils sortent de leur base militante, se raccrochent en quelque sorte à un terrorisme un peu plus...
international.
Alors voilà, mais bon, pour différentes raisons qui tiennent aussi à leur survie en tant que groupe, en quelque sorte, hein, ou de leur difficulté à survivre. Alors je voulais revenir aussi sur la théorie, parce que la théorie de la RAF, alors c'est pas une... C'est quelque chose qu'on a du mal à cerner, parce que dans l'organisation, finalement, la RAF avait plutôt une... des tendances anarchistes, c'est-à-dire pas des cellules autonomes, pas de chef. En principe, en théorie, c'est comme ça que ça devait marcher. Dans les faits, c'était plutôt des marxistes révolutionnaires. C'est comme ça que Klaus Croissant, qui était un peu leur porte-parole, les qualifiait. Mais quand même, dans leur action, on retrouve vraiment la marque de leur idéologie, c'est-à-dire que dans les lettres dans les textes qu'ils ont écrits, qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le site de Secours Rouge, sur Internet, vous avez tous les textes de Ulrike Meinhof, par exemple. Alors, par exemple, pour eux, il n'y avait pas d'État national envisageable. Pourquoi ? Parce que la circulation du capital, la dépendance économique et l'uniformisation culturelle... rendait tout ce fonctionnement national caduque, en fait. Et la preuve en était pour eux que finalement, une masse de travailleurs émigrés travaillait dans les grandes métropoles, était assujettis, en fait, hein, c'est-à-dire que était assujettis à aller à se retrouver dans les grandes métropoles européennes.
Effectivement, ils se déclaraient marxistes. Après, la RAF a quand même vécu pendant 30 ans. Et leur mentalité, il y a une évolution politique. Au départ, c'était marxiste, mais vers la fin, beaucoup d'autres organisations révolutionnaires leur reprochaient un flou quand même idéologique. On parlait même de subjectivisme. à leur encontre, par rapport à leur texte.
D'accord. Alors, oui, mais, oui. Alors, moi, ce qui m'a quand même frappé, c'était parce que à l'extrême gauche, on les a accusés de, alors, c'est pas à l'extrême gauche, mais disons à la gauche traditionnelle, marxiste traditionnelle, les a accusés, on a vu ça dans certains textes, de nationalisme marxiste. Et donc, bon, on s'est demandé comment ils avaient pu en arriver là. Mais dans leur idée, le système impérialiste était dominé par les USA. Et c'était un réseau d'alliances militaires et de multinationales. Donc c'était vraiment la présence était effective partout. C'est un espèce de monstre dont les métropoles sont les têtes et il fallait
couper les têtes.
Voilà. Alors.
Effectivement, pour la RAF, l'Allemagne était dominée politiquement et économiquement par le capital américain. Donc il fallait lutter contre ça. L'Allemagne était un territoire occupé par l'armée américaine, donc il fallait lutter contre ça. C'était base pour la guerre du Vietnam, puisque c'est vrai que les avions partaient de certaines bases allemandes pour aller bombarder le Vietnam. Et c'était aussi... L'Allemagne faisait partie de cette stratégie d'encerclement et de prise à revers de l'Union soviétique, le fameux « rollback ». Mise en US. Place à cette époque, voilà. Voilà.
Donc l'Allemagne était utilisée en fait pour dominer l'Europe de l'Ouest, hein, utilisée par les Américains. Et donc l'agent de cette domination, c'était évidemment la social-démocratie,
SPD. Voilà.
Alors on va s'écouter une petite musique et puis on va reprendre tout de suite sur l'année 74.
La conception de la lutte politique reste tout à fait incomprise à l'étranger. Jean-Paul Sartre a visité Baader dans sa cellule en décembre dernier. Il ne semblait pas pour autant approuver ses méthodes.
Quelle impression vous a donné Andreas Baader ?
D'être maigre, très maigre, à cause de la grève de la faim qu'il fait, d'avoir un visage assez torturé, mais d'avoir parlé très calmement de ce qu'il avait à me dire.
Vous avez dit dans plusieurs interviews que vous étiez globalement solidaire de Andreas Baader, mais que vous n'acceptiez pas tout à fait ses méthodes. Est-ce que vous pensez la même chose après l'avoir vu ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes qui permettent à gauche de lutter contre les forces qui sont opposées au mouvement de gauche, et la sienne est peut-être valable en Allemagne, je ne sais pas, mais elle ne réussirait pas en France.
Voilà, alors si même Jean-Paul Sartre le dit, c'est que ça doit être vrai quelque part. Donc évidemment, en 68, il ne s'est pas tout à fait passé la même chose. Donc ça, c'était le 4 décembre 1974. Et très très vite, les activités reprennent en réaction à la mort d'Holger Meins, mais même dans l'année 75.
Oui, comme on l'a dit, le président du tribunal de grande instance qui a été tué en fin 74, et en 75, les actions reprennent, mais à grande ampleur. Donc dès le 27 février 1975, Peter Lorenz, qui est député de la CDU et candidat à la mairie de Berlin-Ouest, est enlevé. Et il est enlevé 2 jours avant les élections municipales. Et l'enlèvement est revendiqué par le mouvement du 2 juin. Et quelles sont les revendications ? En fait, il demande l'échange de certains prisonniers, de 6 prisonniers, dont Verena Becker et Horst Mahler, contre la libération de Peter Lorenz. Et ça va fonctionner.
Ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui va marquer les mouvements.
Ça va être une réussite, une vraie victoire pour le mouvement d'extrême gauche, en tout cas pour les mouvements terroristes. Seul Horst Mahler va refuser d'être libéré, puisque à l'époque, il s'était déjà dissocié et donc il refusera toute libération.
Toute compromission.
Voilà. Et donc c'est vraiment une réussite pour les mouvements d'extrême gauche. Les terroristes sont libérés, Peter Lorenz s'est relâché. Donc on parle de victoire. Mais par contre, les membres de la première génération de la RAF, Andreas Baader, Gudrun Neslin, Ulrike Meinhof,
ne sont pas concernés,
ils sont toujours emprisonnés. Et la RAF, peut-être sous pression justement, peut-être que certaines personnes emprisonnées vont mettre la pression sur les membres qui sont toujours dehors. En tout cas, ils vont organiser une action. une action un peu suicidaire, puisque le 24 avril 75, l'ambassade d'Allemagne à Stockholm est attaquée par un commando de la RAF qui prend 12 fonctionnaires en otage. Et leur demande, ils demandent la libération de 26 prisonniers, dont Bader, Meinhof et Enslin. Évidemment, là, le gouvernement va faire preuve de...
D'intransigeance.
Et malgré la, on va dire, l'attaché militaire, l'attaché économique sont abattus par ce commando.
Avant la désintervention des forces de police.
Avant l'intervention des forces de police. Mais le gouvernement ne va rien lâcher. Donc la police suédoise, qui a demandé l'autorisation au gouvernement allemand, va prendre d'assaut l'ambassade. Malheureusement, l'ambassade avait été un peu piégée. Il y avait eu des bombes. Une bombe va exploser. Donc ça va tuer un des preneurs d'otages et un policier aussi. Et puis les membres vont tous être arrêtés.
Voilà. Alors
très grièvement.
Voilà. Donc il y a cette histoire aussi tragique d'un des membres qui est évacué.
Oui, tout à fait. Il y a
contre l'avis médical des médecins.
Effectivement, Sigrid Hausner qui mourra à la prison de Steinmein, alors que les docteurs, les médecins suédois n'avaient pas autorisé son transfert.
Voilà.
Alors c'est un échec, un grave échec. On peut peut-être penser que la préparation n'a pas été bonne, Enfin, en tout cas, la RAF mettra 2 ans avant de revendiquer une nouvelle action.
D'accord. Donc, c'est dans ce contexte que va s'ouvrir le procès. Mais auparavant, les autorités allemandes ont fait voter un certain nombre de lois pour presque pratiquement empêcher la défense des accusés, sous couvert de mesures de sécurité, de non-communication avec les avocats. Donc, c'est le Parlement lui-même qui vote les articles de loi devant s'appliquer au procès à venir contre la RAF. Donc voilà, donc ces mesures d'exception, littéralement d'exception, permettent de conduire un procès en l'absence des accusés si ceux-ci se sont eux-mêmes rendus coupables de leur mauvais état de santé. Voilà, puisqu'en fait les médecins avaient déclaré seulement 3 heures de procès.
Oui, on y reviendra, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mesures qui ont été prises pour bafouer les droits de la défense. Hein. Les avocats déjà ont été poursuivis, ont été vraiment maltraités
avant le procès,
puisque tous les avocats de Bader ont été exclus du procès avant même que le procès ne commence. Ouais. Donc c'était des avocats commis d'office qui sont arrivés.
Et surtout, ils ne pouvaient pas présenter un avocat qui prenne une défense collective.
Alors non, ça évidemment c'était interdit. Donc chaque accusé devait avoir son avocat.
C'était interdit parce que le Parlement l'avait décidé.
Bien sûr. Déjà, alors... Les entrevues entre les avocats et les détenus pouvaient être surveillées par un juge. Les audiences pouvaient être menées en l'absence des accusés, donc quand celui-ci avait attenté délibérément à sa santé.
Ouais.
Et chaque accusé avait droit à un maximum de 5 défenseurs. Mais bon,
alors,
il ne pouvait pas les choisir, que chaque défenseur était poursuivi et en général exclu des procès.
Voilà, on avait la possibilité d'interdire aux avocats de plaider s'ils sont suspects de soutenir une association criminelle ou de mettre en danger la sûreté de l'État, ce qui revenait purement et simplement à annuler toute la possibilité de présenter des défenseurs qui connaissaient le dossier.
Oui, puisque les défenseurs qui avaient étudié le dossier ont été exclus, donc des avocats commis d'office qui ne connaissaient peut-être pas tout le dossier.
Une parodie de justice, en fait.
Une parodie de justice, surtout que déjà... Comité d'office, est-ce qu'ils travaillaient pour le gouvernement? Est-ce qu'ils avaient la confiance des accusés? On ne sait pas. Mais déjà,
est-ce que ça n'a pas un lien avec la première génération où effectivement les condamnés, enfin les prisonniers insultent le juge pour justement être exclus des débats?
Et justement,
ils avaient peut-être peur que ça recommence avec.
C'est la première génération, mais ça c'est la première génération qui passe en procès. Donc,
effectivement, ils ont fait tout ce qu'on voit dans le film. Hein. Effectivement, ils essaient de se faire exclure du procès, mais c'était leur seule façon de ne pas participer à cette parodie, puisque de toute façon, les médecins avaient conclu qu'ils ne pouvaient pas participer au procès. Et une première expertise demandée par les avocats en août estime que les accusés ne peuvent suivre les débats que 3 heures par jour. En septembre, les experts, je les juge inaptes à participer au procès. Donc le procès se poursuivra sans les accusés.
D'accord. Alors on va s'écouter un petit extrait justement sur la préparation du procès.
Événement sans précédent dans l'histoire de la justice allemande, à Stuttgart-Stammheim, le tribunal est venu à la prison. Dans la crainte de fuite ou de manifestation au cours des déplacements des accusés, la salle d'audience a été construite à portée de souterrain des cellules. Coup de l'opération, 12 millions de Deutschmark. La surveillance des bâtiments est assurée par plusieurs centaines de policiers. Ce procès est vraiment placé sous le signe du béton et des cordons de sécurité. Ces mesures s'expliquent par la hantise dans laquelle vivent les Allemands depuis maintenant 5 ans.
Alors voilà, c'est un procès d'exception qui commence. Les organisations de humanitaires s'émeuvent des conditions de procès, bien sûr, et la pression sur l'Allemagne est assez forte. Comment va se dérouler le procès, Hervé ?
On vient d'en parler, donc il va se dérouler...
Le procès, finalement, n'a pas eu tant d'importance que ça. C'est-à-dire que la RAF voulait en faire une tribune, ils n'étaient pas en état.
Le procès n'aura pas vraiment, comme vous dites, n'aura pas trop d'importance, parce que c'est tout le contexte autour du procès qui va attirer l'attention, notamment ce tribunal qui sera construit sur le lieu même de la prison, à Stammheim, qui va coûter des millions de Deutschmark, comme le fait remarquer la presse de Springer de l'époque, oui, effectivement. Et donc, pour aller de la prison jusqu'au tribunal, il suffira de passer sous un tunnel.
Oui. Et d'ailleurs, ça servira à nouveau de prison plus tard.
Et comment réagit la presse par rapport à ce faux procès qui est tenté contre eux, là ? Alors finalement, non.
Ouais, tout dépend du...
Est-ce qu'il y a des journaux qui condamnent effectivement ce manque de justice, on va dire.
En Allemagne, pas vraiment. En France, d'ailleurs, l'Allemagne, où les journaux allemands vont taxer justement les journaux français de germanophobie, comme d'habitude, puisque les journaux français ont plus de recul par rapport à tout ça et parleront plus librement, en tout cas, de ce qui se passe là-bas.
Alors, c'est au cours de ce procès, en fait, qu'Ulrike Meinhof est retrouvée morte dans sa cellule, pendue. Et là, les interprétations divergent, comme d'habitude.
Les interprétations divergent, oui. Effectivement, le gouvernement va tout de suite parler de suicide. Les membres de la RAF ont parlé de meurtre. C'est vrai qu'elle est retrouvée pendue dans sa cellule le 9 mai 76. Donc, elle aurait dit à sa sœur quelque temps auparavant que si on l'a retrouvée morte, c'est que les autorités l'auront tuée. Les autorités diront oui, mais c'est bien une preuve qu'elle s'est suicidée, puisqu'elle fait croire que...
Voilà, donc la lumière n'est évidemment pas faite, mais...
Par contre, cette mort va provoquer d'énormes manifestations en Allemagne, mais aussi dans de nombreux pays du monde, en France, en Italie, en Grèce, en Australie. Il y aura des actions...
En compte, il reste 11 attentats ou incendies volontaires quand même, juste après la
mort de Ulrike Meinhof, oui.
Et c'est pendu avec quoi exactement, tu sais? C'est la seule chose. Non, parce que normalement, quand on est enfermé et qu'on n'a pas le droit de voir ses camarades de cellule, etc., on y va pieds nus, on n'a pas de ceinture, on n'a rien, quoi.
Bien sûr, mais.
Donc tout porte à croire qu'elle a été assassinée, enfin, a priori. Enfin bon.
Ça avec peut-être ton interprétation.
C'est une
interprétation, Gilles.
Dire qu'elle a été suicidée, c'est aussi une interprétation.
Mais on peut penser qu'elle s'est suicidée due aussi à ses conditions de détention qui ont été terribles. C'est elle a quand même passé presque 300 jours dans une cellule d'isolement, sans voir personne, sans bruit. Et quand elle parle de sa détention avec ses mots, c'est très très dur. Il faut vraiment lire ses textes, vous verrez.
Alors en définitive, le verdict tombe. Alors on va écouter tout de suite, on va l'écouter.
Prison à vie, donc, pour les membres survivants du groupe Baader-Meinhof. C'est la conclusion ce matin d'un procès qui a passionné toute l'Allemagne. Ils étaient 3 survivants du noyau dur de ce groupe d'extrême gauche. La figure la plus connue étant celle d'Andras Baader. Verdict donc, la réclusion à perpétuité.
Ces 3 condamnations à la prison à vie frappent 3 accusés à qui l'on reproche quelques 60 meurtres, tentatives de meurtre et attentats. Andreas Baader, Karl Rasp et Gudrun Enslin ont appris ce verdict alors qu'ils poursuivent une grève de la faim qui les a affaiblis à un point où l'on craint pour leur vie même. La mort des condamnés serait bien naturellement une catastrophe pour les autorités et la justice allemande, car elle provoquerait une vague de solidarité en faveur des terroristes. Les risques de réaction et de nouveaux attentats seraient encore plus grands qu'à l'heure actuelle, où une véritable psychose règne en Allemagne et où la police s'attend à tout instant à de nouveaux coups de main. Il reste que tout autre jugement plus clément eût été accueilli ici par l'opinion allemande comme une faillite des autorités et comme une attitude suicidaire à l'égard des ennemis mortels de l'état de Bonn.
Voilà, donc évidemment, risque de réaction si les prisonniers décèdent, perpétuité. Alors, c'est dans ce contexte, puisque ils ont été condamnés à la perpétuité, que les actions de l'ARAF reprennent, et de ce qu'on appellera plus tard la deuxième génération.
Oui, la deuxième génération va prendre le relais. Donc la deuxième génération qui est issue justement des associations telles les Secours Rouges, des comités d'action contre la torture, qui ont côtoyé plus ou moins tout de loin, mais qui ont vu les conditions des tensions, qui ont été révoltés par tout ça et qui sont passés pour certains dans la clandestinité et dans la lutte armée.
Alors la première action, la première action, il s'agit de frapper vraiment les esprits. Hein, c'est-à-dire qu'on retourne, ça fait penser à l'année 72 où on a des actions très très rapprochées.
On repart dans les fondamentaux, on va dire, et la lutte contre la justice. Alors déjà le 30 septembre 77 débute une nouvelle grève de la faim des prisonniers de la RAF. Hein. Et c'est dans ce contexte que le 7 avril 77, le procureur Boubac est exécuté par un commando, le commando Ulrike Meinhof. Donc en souvenir.
Donc c'était à Karlsruhe.
À Karlsruhe, donc le procureur Boubac est exécuté. Hein. Il est assassiné avec son chauffeur.
Ouais. Alors précisons que le procureur Boubac était responsable des conditions de détention des prisonniers de la RAF et qu'il était en poste depuis 74.
Oui. C'était l'un de ceux qui voulait une législation plus dure hein, pour les membres de la RAF.
Voilà. Et la RAF l'accusait nominalement d'être responsable de la mort de
plusieurs. Oui, d'ailleurs, en 1975, il y avait un entretien, une interview qui est parue dans le Spiegel, hein, et où certains membres de la RAF ont répondu à des questions. Et Boubac était déjà nommé. Et on pouvait penser qu'il était déjà
sur la liste.
Sur la liste.
Voilà, donc, procureur, ça commence, c'est bien. Ça commence fort. Quoi. Et puis ensuite,
Ensuite, ça continue. Ça continue. Alors déjà, pour cet assassinat, on soupçonne un des avocats hein, des membres de la RAF, Siegfried Haag. Et on pense que c'est lui qui est à l'origine de ce plan. C'est lui qui aurait réorganisé la deuxième génération de la RAF. Ensuite, en avril 77, donc c'est en avril 77 que Bader et le 28 avril qui sont condamnés à la perpétuité. Hein, donc la première action
commence un peu avant.
Et postérieure.
Est antérieure
à la condamnation. C'était sûrement pour mettre la pression justement sur la justice. Bon. Donc le 28 avril, condamnation à perpète. Et le 30 avril, le ministre de la Justice du Bade-Württemberg promet le regroupement des prisonniers. Donc c'est la fin de la grève de la faim. Si on peut dire. Et c'est une promesse qui va être plus ou moins tenue. Mais on voit que, voilà, dans ce contexte, il y a quand même des rapports, des échanges entre les prisonniers et les membres du gouvernement. Enfin, on sait ce que ça va donner par la suite, hein, puisque dès le 30 juillet, Jürgen Ponto, qui est le président de la Dresdner Bank, va être abattu. Ah, il semblerait que ce soit une tentative d'enlèvement hein, qui est mal dégénéré.
C'était la cible qui
comptait,
c'est-à-dire l'adresse banque.
Voilà, bien sûr. Donc, par la suite, le 8 août, les prisonniers de Steinheim, les prisonniers qui, en tout cas, les prisonniers, les membres de la RAF, vont être passés à tabac hein, par
les matons.
Hein, par les matons, suite à une pseudo...
altercation.
C'est habituel, hein, on va dire. Hein.
Oui, mais là, effectivement, une semaine après cette action, et pour des raisons mal connues, hein, mais pourquoi passer à tabac Il n'y a pas que des hommes hein, dans la RAF, hein, il y a aussi des femmes. Elles auraient été passées à tabac hein, comme les hommes.
Hein. Et on arrive à l'action.
On arrive au 5 septembre 77. Et là, c'est l'enlèvement d'Hans-Martin Schleyer.
Voilà, qui est l'action peut-être la plus symbolique. Hein,
c'est l'action la plus symbolique. Alors, c'est l'enlèvement d'Hans-Martin Schleyer. C'est le patron des patrons, hein, donc le baron de Seyer, la française. Là,
alors, on va écouter justement.
Ja, Schleyer war damals der Chef vom BDI und also von den industriellen Vereinigungen praktisch sehr exponierte Person.
Schleyer à l'époque, c'était le chef du BDI, l'équivalent allemand du CNPF. C'est-à-dire que du côté des industriels et de leurs organisations, c'était un personnage important médiatiquement.
Der sehr starken Einfluss auf die Politik hatte, also da gab es verschiedene Initiativen auch von so einem klassennivellierenden Konstrukt, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, konzertierte Aktion, ne? Also wo er da sehr exponiert war und überhaupt.
Il avait une grande influence sur la vie politique. C'est une époque où le camp des industriels prenait beaucoup d'initiatives, comme ce qui s'appelait la concertierte Aktion. La concertierte Aktion, c'était une offensive de pacification sociale à travers une collaboration entre le gouvernement, les patrons, les syndicats et les banques.
Also, in der Politik lief praktisch nichts ohne ihn.
En politique, rien ne pouvait se passer sans lui.
Er hat eine lange politische Geschichte. Also, der war schon in der Studentenzeit in der faschistischen, der Nazi-Studentenorganisation in Heidelberg. Also hat sich da schon exponiert in antisemitischen Initiativen, also praktisch jüdische Studenten aus der Uni rauszuwerfen und so weiter. Also war da schon exponierter Nazi.
Il avait une longue histoire politique. Quand il était étudiant, il faisait partie d'une organisation universitaire nazie à Heidelberg. À ce moment déjà, il commençait à prendre de l'importance dans des actions antisémites. Par exemple, expulser les étudiants juifs de l'université. À l'époque, il était déjà un nazi haut placé.
Und ist dann in der Zeit, wo.
Voilà, alors c'était Hans-Martin Schleyer. Qui était Hans-Martin Schleyer? Donc cette action frappe effectivement de stupeur, on a envie de dire, toute l'Allemagne, mais il faut dire que dans les journaux allemands, on ne précise pas le passé de Schleyer.
Non, ce passé n'est précisé que dans les journaux français.
D'où, après une polémique anti-germaniste, etc.
Là, l'extrait qu'on a passé est assez clair, effectivement, c'est l'ancien SS. Donc toute cette lutte contre la dénazification qui n'a pas été totale.
Bien sûr. Et puis, alors, voilà, il va rester l'ultime. Hans-Martin Schleyer doit servir de monnaie d'échange.
Oui, bien sûr. La demande de libération des prisonniers de la RAF contre le relâchage d'Hans-Martin Schleyer, évidemment. Mais il faut dire que cette action est très violente, et c'est là qu'on voit la différence entre la première génération et la deuxième génération. Puisque la première génération, c'est vraiment. C'est appliqué sur des cibles.
Des bâtiments.
Voilà, des bâtiments. Même s'il y avait des personnes, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Hein. Mais ce sont des bases américaines, la justice, la police. Là, par contre, pour l'enlèvement d'Hans-Martin Schleyer, il y aura ces gardes du corps qui vont être abattus. On peut dire que c'est la police, donc. Chacun pense ce qu'il veut, mais le chauffeur sera tué aussi. Le chauffeur n'était pas armé.
Bon, oui, donc là, il y a une espèce d'indignation.
Il y a une radicalisation dans la radicalisation, si on peut dire. Et là, on sent que la deuxième génération est beaucoup plus véhémente que la première et qu'ils iront beaucoup plus loin.
Donc, alors, toujours dans cette optique, comme de libérer, d'obtenir la libération des prisonniers.
Oui, une libération, ce qui leur sera reproché par d'autres groupes, puisqu'en fait, il n'y a plus d'action. C'est pas de l'anti-impérialisme, de l'anticapitalisme, de l'anti-américanisme. C'est vraiment relâcher les prisonniers, sinon on ira de plus en plus loin.
On passe d'un terrorisme politique à un terrorisme aveugle, un petit peu.
Oui, voilà, c'est ça, hein, ce qu'on peut dire. Paradoxalement à ça, donc il y aura des négociations entre le gouvernement et les personnes et les ravisseurs. Qui vont rien donner. Hein. Le fils de Schleyer était prêt à payer la rançon qui était demandée.
L'État allemand ne veut pas en entendre parler.
Le gouvernement, dès le début, a dit non. Ils n'ont jamais voulu négocier, même s'ils ont fait semblant. Donc, ils connaissaient le dénouement. Ils savaient que M. Schleyer serait abattu. De toute façon, donc, pour eux, c'était acquis. Le but était de gagner du temps pour essayer de retrouver éventuellement les ravisseurs et M. Schleyer, mais ce qu'ils n'ont jamais fait.
Tu étais parti à Amsterdam, puis ensuite en Belgique.
On ne connaît pas vraiment le parcours, mais en tout cas, ils n'ont jamais retrouvé. D'ailleurs, après l'affaire, les ravisseurs n'ont été retrouvés que beaucoup plus tard. Hein. Brigitte Mohnhaupt et Christian Clark, qui faisaient partie de la deuxième génération, qui sont soupçonnés en tout cas d'être les têtes pensantes et les organisateurs de cette action, ont été arrêtés qu'en 1982.
Donc bien après 5 ans.
Donc là, on atteint le paroxysme, en tout cas des actions de la deuxième génération, l'enlèvement d'Hans-Martin Schleyer. On voit que rien ne se passe. Un commando palestinien détourne un avion de la Lufthansa le 13 octobre 1977 et demande aussi la libération des membres de la RAF ainsi que de deux Palestiniens qui sont emprisonnés en Turquie.
Voilà, et effectivement, là non plus, c'est l'armée allemande qui interviendra à Mogadiscio pour
c'est l'armée allemande qui interviendra effectivement à Mogadiscio avec le GSG9 qui est un genre de GIGN allemand qui a été créé après le Septembre Noir pendant les JO de Munich en 1972 à la suite de l'action contre les terroristes palestiniens.
Voilà, alors l'action échouant, on retrouvera les trois survivants.
Oui, tout à fait. En fait, l'action échoue, donc le détournement d'avion échoue. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, le matin du 18 octobre, on découvre la mort, le corps des quatre membres de la RAF, hein, Andreas Bader, Gudrun Eslin, Jan Karl Rasp et un autre des membres. Et là, la question se pose, suicide ou exécution.
Oui, sachant que deux personnes sont mortes par balle, donc on se demande comment ils ont pu introduire les revolvers, soi-disant il y avait un transistor, il aurait fallu qu'ils apprennent la nouvelle de Mogadiscio, et en plus ils étaient sous isolement. Donc voilà, beaucoup de questions demeurent.
Néanmoins, avec le meurtre de ces... le suicide de des têtes pensantes de la RAF, les actions vont continuer, et la RAF ne décidera d'arrêter ses actions qu'en 1998 et enverra une lettre en expliquant
lettre qu'on a entendue à l'introduction.
Donc 20 ans, ils vont continuer pendant 20 ans encore leurs actions avec moins d'importance, mais toujours, toujours, toujours. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a toujours une mouvance extrême gauche en Allemagne, notamment à Berlin.
Très forte même.
Qui est très importante. Ouais, estime à 1000 personnes environ les personnes d'extrême gauche et le gouvernement allemand a toujours peur que. Ouais. D'une radicalisation des actions de ces membres.
Voilà, alors, écoutez, pour conclure cette émission.
Oui, juste pour dire quand même qu'il y a quand même deux films qu'il faut absolument voir. Bon, j'ai été venu exprès pour une chronique cinéma, mais on n'aura pas le temps de la faire, apparemment. Donc, quand même, que je dis. Il y a deux films qu'il faut absolument voir, c'est La Bande à Bader, donc un film de Uli Edel qui a été tourné en 88, qui représente un peu le contexte dans lequel Bader. 2008, pardon, dans lequel effectivement Bader et son groupe a fait ses attentats. Également un film de Fassbinder qui était un petit chef-d'œuvre noir. C'est
la dritte génération.
La troisième génération, absolument, qui a été tournée en 1979 et qui est effectivement un excellent film. Il faut absolument le voir.
En parlant de la troisième génération, on va noter que la dernière prisonnière de la RAF a été libérée en juin 2011 et c'était Brigitte. 2011. Donc
voilà. Donc ils ont payé très cher
jusqu'à aujourd'hui
leur conflit. Voilà. Et ben écoutez, cette émission se termine. On se retrouve dans un mois, même si c'est les vacances de Noël. Voilà. Bonne soirée à vous.
Salut.
Bonsoir.
Putain, quelle heure.